Chakti Dianisek, Baba Nikone, soyez les bienvenus ici en Belgique. Je vous ai vu sur le podium avec un très grand sourire. D'où vient ce grand sourire?
Parce que je suis accompagnée par mon oncle, je suis très ravie. Donc, il est à côté de moi, donc je ne fais que sourire. Ouais.
D'accord. De la musique, de la rencontre avec elle et tout le monde qu'elle a amené aussi du Mali, tous ces fabuleux musiciens qui l'accompagnent de tout le temps, partout. Et je ne pouvais être qu'en extase, tu vois.
Vous avez pris une chanson sur Sunyata Keita, qui était le premier empereur du Mali, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez raconté sur ce grand homme de l'histoire malienne?
Ben, nous avons chanté, Babani a chanté l'épopée Mandingue. L'épopée Mandingue, on ne peut pas parler d'épopée Mandingue sans parler de Mangan Sunyata Keita. Mais en fait, Mangan Sunyata n'est pas le premier empereur, le premier roi Mandingue. Le premier roi Mandingue, c'est Soumaoro Kanté. Le premier, le tout premier, ça a été lui. C'est quand Sunyata l'a vaincu qu'il est devenu empereur. Donc, les gens oublient ça très facilement, mais Sunyata qui a fédéré les énergies, qui a fait que toutes les ethnies se sont retrouvées. Wolof, Mossi, Mandingue, tous, on est devenu le peuple malinké, Mandingue aussi, tu vois. Donc, le morceau là est un morceau sacré qui vient du 12e, 13e siècle, de l'époque du règne de Mangan Sunyata Keita.
Et qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que vous avez raconté dans cette chanson?
C'est qu'elle a chanté, elle dit que Sunyata a pris l'arc. L'archer a pris l'arc et il s'est levé. Hein, et il s'est promené avec. La majesté de son geste.
Et bravo, voilà. En un mot.
Oui, mais c'est de façon codée, ouais. Dans le langage codé, c'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois, parce que c'était un chef de guerre aussi. Hein? Parce que dans la confrérie des chasseurs, il était le chasseur suprême.
D'autres musiciens et musiciennes maliennes s'investissent, entre autres, dans des marques de voitures, j'ai entendu. Vous, par contre, vous investissez dans des projets sociaux, surtout, dans des projets sociaux. Quelle est votre motivation pour exactement cet investissement?
Moi, j'encadre mes sœurs, mes nièces, donc de les regrouper. Le nom du groupe, c'est La Nouvelle Montante. Et j'ai un autre groupe, La Nouvelle Génération. Donc, je m'en occupe de leurs concerts, faire sortir des albums, voilà.
Et entre autres, un de vos albums était consacré sur le sida, mais vous êtes aussi marraine pour un projet de scolarisation pour des enfants en difficulté. Quel exactement est-ce que ce projet... Est-ce que vous pouvez décrire ce projet dont vous êtes marraine?
Oui, être marraine de la lutte contre le sida, ça vient droit au cœur parce que j'aimerais bien sensibiliser l'Afrique, les jeunes, de se protéger contre le sida parce que c'est une maladie qui ravage vraiment. On doit les sensibiliser. Donc j'ai fait un morceau uniquement pour le sida. Donc côté des enfants, il faut amener les enfants à l'école, apprendre à lire, écrire. Donc c'est les futurs de notre pays. Voilà.
Il y a eu des efforts énormes au Mali les dernières années, sans aucun doute, pour la scolarisation des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur les efforts du gouvernement et également l'investissement des partenaires techniques et financiers comment ressentissez-vous cela, ces efforts, ces investissements sur l'éducation?
Bon, aujourd'hui, ces dernières années, quand même, l'État fait de grands efforts dans le domaine de l'éducation. Et même s'il reste beaucoup à faire, les salles sont construites un peu partout. Et l'État, de plus en plus, et avec des bailleurs de fonds, avec des partenaires financiers, fait des efforts dans ce cadre-là. Et les artistes, pour ce qu'ils peuvent faire aussi, accompagnent par tout ce qui est aujourd'hui message de paix, d'études et d'alphabétisation et à l'endroit des scolaires et puis de la jeunesse d'une manière générale. Voilà.
Et l'école en général, moi je viens de l'enseignement. Et j'ai fini les beaux-arts et j'ai enseigné 4 ans la peinture et la musique au lycée de Badlabougou, dans mon pays. Et je sais que la révolution, la révolte pour que les militaires quittent le pouvoir au Mali, ça a été commencé par nous. Et moi, j'étais jeune professeur en 76 au Mali et j'avais comme élève pas mal de gens dont Habib Kouaté et tout ça. Et nous avons insufflé d'abord cette rébellion, cette révolution en disant que non, les militaires dans la caserne, pas au pouvoir, tu vois. Il y avait la colline du pouvoir, la colline du savoir qui était Badlabougou et Koulouba. Ainsi, bon, il y avait en ce temps-là, il y a eu une transition, ça veut dire l'école coloniale était là, n'est-ce pas, jusqu'en 60. Nous avons gardé ces canevas-là et on n'a pas uniformisé. La preuve est que quand on enseignait et la musique au conservatoire du Mali, qui n'était pas un conservatoire, qui était les Beaux-Arts, on apprenait la lettre à Élise. On apprenait Bach, Mozart, Beethoven. Au lieu d'apprendre aussi, en même temps, l'art griotique n'était pas introduit dans cette école-là. Et au fil des temps, il y a eu une ouverture. On a commencé à enseigner tous les instruments traditionnels aussi, avoir des recherches là-dessus. Et décortiquer nos gammes, tu vois, sachant que quand tu prends un piano européen et que tu joues la gamme du fa au fa, tu as la gamme mandingue naturelle, diatonique, 7 notes, sans les altérations. Et quand tu veux t'attaquer aux gammes qui correspondent aux autres ethnies, qui sont les Bamana, les Wassoulou, tout ça, c'est pentatonique, même les sonrailles, entre guillemets, c'est 5 notes. Mineur comme majeur. Donc, mais je veux dire, il y a eu un moment quand même où, après que le pouvoir militaire soit parti, il y a eu une sorte de, pas de l'échec de l'école, mais il y avait tout le temps que des grèves et des mouvements. Les enfants n'étudiaient pas réellement. Mais tout ça est en train de se remettre en place parce que dans la crise de la déchirure, il fallait que les Maliens se reconstruisent eux-mêmes d'abord, avant de commencer à dire, ah, les aînés, heureusement, dans ce pays. Je vais vous parler de quelque chose sans essayer de faire une critique, quoi que ce soit. Vous verrez qu'il y a des ethnies, il y a des déchirures, des génocides un peu partout, mais ça ne peut pas arriver au Mali à cause de ce que les griots ont chanté. À cause du fait que quand un malinqué dit qu'un Dogon n'est pas malien, ce sont ses frères malinqués qui vont se charger de le corriger. Nous avons été élevés dans cette ambiance-là. Ce qui fait que nous sommes un et indivisibles. Voilà. Voilà. Et il y a les cousins, les cousinages de plaisanterie qui ont été créés à cause de cela. Et donc, ce qui fait que même quand il y a eu des ratés, que les gens, certaines personnes ont commencé à comprendre dans le mauvais sens la démocratie, ça veut dire j'écrase l'autre, tout ça, on a dit, tiens, non, il y a des valeurs toujours qui vont dépasser. La liberté, ta liberté commencera où, voilà, tu vois. Donc, je pense qu'au niveau de... J'ai confiance du fait qu'il y aura une vraie école. L'école qui va être une école qui soit à l'image de notre société aussi. Mais inspiré aussi du modèle du conquérant, forcément. La preuve est que je vous parle en quelle langue là ? En français. Donc, il y a forcément quelque chose de positif à tirer de tout ça pour fédérer nos peuples et qu'on se rencontre. Voilà.
Aujourd'hui, il reste aussi des problèmes dans l'éducation malienne aujourd'hui. Enfin, pendant ma visite au début de l'année, il restait beaucoup d'enseignements, de secteurs de l'enseignement qui restaient en grève. Tout cela, c'est dû à quoi ? Où se trouve, à votre avis, le problème ?
Le problème est que les gens, les étudiants, les gamins finissent leurs études et ils n'ont pas de débouchés. ils n'ont pas de débouchés. Tu as fini ton travail, mais tu n'as pas de quoi exercer ce pour lequel tu as appris. Tu es allé souffrir pendant des années et tu as fini. Tu as un ingénieur, tu as un diplôme d'ingénierie de quelque chose. Tu ressors, il n'y a pas de place à pourvoir.
Il n'y a pas de travail.
Il n'y a pas de travail et tu ne peux pas sortir dehors aussi. Dehors, c'est interdit à l'immigration. L'Europe est en train de se fédérer dans un flocon où on dit halte à tout ce qui peut venir du Sud. Nous voulons choisir ceux qui doivent venir chez nous, comme c'est le cas de la France. Alors donc, la détresse de pas mal de nos jeunes qui meurent dans la mer ou dans le désert est due à cela. Ils sont poussés vers l'extérieur pour un autre Eldorado, parce qu'ils n'arrivent pas à affirmer leur raison d'être chez eux.
Dans la scolarisation, il y a deux choses quand même qui sont importantes à mon avis. C'est, d'un côté, on peut être content si tous les enfants sont envoyés à l'école. Le deuxième objectif du millénaire, l'éducation pour tous pour 2015. Mais de l'autre côté, on peut se douter aussi, mais est-ce que ça sert vraiment à envoyer les enfants à l'école si la qualité de l'éducation, elle est très limitée, comme elle l'est quand même aujourd'hui, vous le savez bien.
C'est exactement ça, j'en viens. C'est pour cela qu'il faut prendre, il faut qu'il y ait des colloques, il faut qu'il y ait des recherches et qu'on fasse la part des choses et qu'on introduise ce qui est de positif dans le système d'enseignement ancestral. Confondre ça avec le système, le véhicule du moderne, de l'école moderne actuelle. Tant qu'on n'aura pas fait cette part des choses, tout va être faussé parce que nous allons vouloir penser la pensée unique. C'est-à-dire, on ne peut enseigner que comme ça. Il n'y a que cette méthode d'enseignement qui est noble. Alors que non. Hein? Et il faut des écoles de la musique traditionnelle, il faut des écoles du bogolan, l'art des tissus, il faut des écoles de pas mal de facteurs de notre culture en général.
Est-ce que cela nécessite, par exemple, que on doit atteindre l'objectif, le deuxième objectif du millénaire, à scolariser tous les enfants? Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, pour un musicien de savoir lire?
C'est nécessaire, mais pas indispensable. Ça peut être un plus pour certains. Certains musiciens, je connais beaucoup de musiciens qui sont autodidactes, qui l'ont été d'abord après, la lecture et tout le reste sont venus après. Hein? J'ai connu Carlos Santana, au départ, il ne lisait pas la musique. J'ai pu jouer avec lui dans les années 90. Louis Armstrong n'a pas commencé en lisant de la musique, je regrette. Donc c'était autodidacte aussi. Et nous avons notre vieux lion, Bazoumana Sissoko, qui est de 1900, aveugle. Il est né aveugle, qui a toujours joué.
1914, voilà. 1913. Il est né en 1913.
Non, il est né en 1900.
1900.
Oui, 1900. Il est né en 1900, même âge que Louis Armstrong.
Il est né en 1987.
Voilà. Il a vécu 87 ans.
Hein?
Bon, et lui, il a toujours joué des canevas compliqués. On pourrait dire même, c'est lui, il symboliserait même l'origine même du jazz, du blues, de beaucoup de choses. Ouais. Quand tu l'écoutes réellement, tu vois que harmoniquement, il fait tout.
L'hymne national du Mali, c'est chanté par Bazouman. Même du Dakar aussi. L'hymne du Dakar, c'est chanté par Bazouman.
Je vous entends. Pas explicitement, mais j'entends dans vos mots un peu la pensée que peut-être l'éducation pour tous pour l'an 2015, c'est pas une nécessité absolue. Surtout si on veut garder les valeurs de la culture,
voilà,
ou bien.
Parce que si l'éducation doit introduire d'abord les bases fondamentales de la société qui nous a régi, notre société, oui, d'accord. Qu'il y ait l'éducation pour tout. Mais si ça doit être une forme de pensée universelle et unique, unilatérale, non. Cette éducation-là, elle ne peut pas être porteur d'énergie pour toutes les couches de société de chez nous. Tu vois, parce que la grande école de griot est une école aussi noble que n'importe quel conservatoire. Donc voilà.
Elle est très malienne.
Elle est très mandingue. On peut le retrouver, c'est vrai, dans toute la société.
Ouais. Voilà. Avec la musique.
Voilà, c'est ça. Tu l'as dans les gènes. Tu l'as dans les gènes. Et quand je dis mandingue, c'est les peuples, tous les peuples qui viennent de toute la sous-région. Mali, Guinée-Conakry, une bonne partie du Sénégal, l'empire mandingue, et une bonne partie de Gambie, et du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire aussi. Hein? Et tout ça, ça crée la dynamique de l'empire mandingue. Et si on considère aussi le nord du Mali, ça veut dire l'apport des Touaregs, les Almoravides, tout ça là, nous disons que oui, c'est une société très multiculturelle et très riche. Tu vois, ça va de l'Afrique blanche à l'Afrique noire, dans toute l'Afrique, dans seulement l'Afrique de l'Ouest déjà. Sans compter qu'on peut aller encore de l'Afrique du Sud au Maghreb. Donc c'est cette Afrique-là qui rêvait Lumumba, qui rêvait Stephen Biko, qui rêvait aussi Mandela, qui continue de rêver Kwame Nkrumah.